Quand Thomas Edison était enfant, son instituteur le renvoya de l'école avec une lettre destinée à sa mère. Le petit Thomas, une fois rentré à la maison, lui demanda ce que cette lettre disait. Sa mère lut la lettre, puis lui dit simplement « Ton fils est un génie, cette école est trop petite pour lui et ses professeurs ne sont pas assez bons pour l'enseigner. » Tu dois lui faire l'école à la maison. » Sa mère se mit effectivement à l'instruire elle-même et Edison devint plus tard l'un des inventeurs les plus célèbres de l'histoire. C'est à lui qu'on doit par exemple l'ampoule à filament. On raconte qu'il était plutôt dans sa vie plutôt de caractère optimiste et qu'avant de trouver cette matière qui émet de la lumière sans brûler, quelque part, le tungstène, eh bien, il a essayé avec du coton, avec du papier, avec du carton, avec du bois, avec différentes choses. Et quand les gens l'interrogeaient, ils lui demandaient « Mais tu ne te décourages pas ?» Et il disait « Non, parce qu'à chaque fois, je connais une raison de plus pour laquelle ça ne marche pas. » On raconte aussi sur lui qu'un jour, et ça c'est historique, en tout cas sa maison a brûlé, et dans sa maison, il y avait tout le fruit de ses recherches. Donc des années de recherche qui étaient notées dans des carnets, etc. Et il ne s'est pas découragé, il a dit ben, « je recommencerai », tout simplement. Des années plus tard, après la mort de sa maman, Edison a retrouvé cette lettre dans ses affaires. Il l'a lu et découvrit ce que l'école avait réellement écrit. Vous vous doutiez bien que ce n'était peut-être pas le mot du directeur de l'école. Et ce que l'école avait réellement écrit, c'était « Votre fils est déficient. Nous ne voulons plus de lui dans notre établissement. » Edison a été à ce moment-là bouleversé. Il a alors écrit dans ses mémoires en substance « Thomas Alva Edison était un enfant déficient, mais grâce à une mère héroïque, il devint le génie du siècle. » Bon, un peu de modestie, ça ne fait pas de mal de temps en temps. Ce qui a changé la vie d'Edison, ce n'est pas seulement l'éducation de sa maman, c'est le regard qu'elle a posé sur lui. Là où d'autres voyaient un enfant incapable, elle a vu un potentiel. Là où d'autres avaient prononcé une condamnation, elle a prononcé une parole d'espérance. Et cela nous rappelle une chose essentielle, la puissance de nos paroles d'encouragement qui peuvent aller jusqu'à changer la vie de quelqu'un. Et probablement, on peut maintenant se souvenir de quelques paroles encourageantes. Des fois, c'est trois fois rien, mais à ce moment-là, ça nous a encouragés sur le moment et qui nous ont portés. À l'inverse, on peut se souvenir aussi des fois de paroles qui nous ont fortement découragés. Dans notre Église, il y a peut-être aujourd'hui quelqu'un qui se voit comme un échec, un mauvais chrétien, un mauvais parent, un mauvais responsable. Cette personne a simplement besoin qu'on lui dise « Je vois ce que Dieu a placé en toi, ne renonce pas, continue, Dieu n'en a pas terminé avec toi. » Nous allons parler donc de l'encouragement ce matin et je nous invite à lire pour cela quelques versets dans le livre des Actes des Apôtres. On est dans les premiers temps de l'histoire de l'Église à Jérusalem. Les premières oppositions se font sentir à l'encontre des chrétiens. Mais les dissensions internes ne se sont pas encore manifestées. Et les quelques versets que nous allons lire résonnent presque comme une église idéale, ou du moins une église dans laquelle, pour l'instant, l'unité et la solidarité sont encore intactes. Actes chapitre 4, versets 32 à 37. « La multitude des croyants était parfaitement unie de cœur et d'âme. » Aucun d'eux ne disait que ses biens étaient à lui seul, mais ils mettaient en commun tout ce qu'ils avaient. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage à la résurrection du Seigneur Jésus, et Dieu leur accordait à tous d'abondantes bénédictions. Personne parmi eux ne manquait du nécessaire. En effet, tous ceux qui possédaient des terrains ou des maisons les vendaient, apportaient la somme produite par cette vente et la remettaient aux apôtres. On distribuait ensuite l'argent à chacun selon ses besoins. Joseph, un lévite né à Chypre, que les apôtres surnommaient Barnabas, ce qui veut dire « fils d'encouragement », vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le remit aux apôtres. Or, ce texte déjà nous montre un bel exemple d'unité, de communion, de solidarité dans la vie de la toute première Église à Jérusalem. Malheureusement, on le verra dès le chapitre suivant, cette belle unité commencera à se fissurer. Si Jésus bâtit son Église, cette dernière reste une réalité humaine qu'il ne faut pas idéaliser, y compris l'Église des tout premiers temps, même si peut-être les tout premiers mois, tout se passait encore très bien. Il y a toujours eu, dans l'histoire de l'Église, des hommes et des femmes remarquables et des exemples inspirants. Et on en a un là dans notre texte, c'est le cas d'un certain Joseph, un lévite originaire de Chypre, qui est mentionné dans notre récit. Que fait-il ? Eh bien, en fait, il ne fait rien d'extraordinaire dans ce texte-là. Il ne fait pas autre chose que les autres. Le texte souligne comment s'organisait la solidarité à l'époque. Tous ceux qui possédaient des terrains ou des maisons les vendaient, apportaient la somme produite par la vente, la remettaient aux apôtres, on distribuait ensuite l'argent à chacun selon ses besoins. Que fait ce fameux Joseph ? Eh bien, il vendit un champ qu'il possédait, il apporta l'argent et le remit aux apôtres. En fait, il fait la même chose que les autres. Alors, pourquoi est-il spécifiquement mentionné avec son nom et même son surnom ? C'est comme si l'auteur des Actes voulait le faire sortir de l'anonymat. Il agit comme les autres, mais il avait quelque chose en plus. Il était reconnu par les apôtres comme un homme qui encourageait les autres. Et donc, il ne l'appelait plus Joseph, mais il le surnommait Barnabas. Ça signifie « fils d'encouragement ». Et le mot grec qui est traduit par « encouragement » est de la même origine que le mot « parakletos », ce nom qui est donné au Saint-Esprit dans l'évangile de Jean. Celui qui encourage accomplit d'une certaine façon l'œuvre de l'Esprit. On pourrait presque un petit peu se risquer à dire ça. En tout cas, ce surnom dit quelque chose de ce Joseph, et par la suite, on ne l'appellera plus Joseph, on l'appellera toujours Barnabas, ou Barnabé, si on francise le nom, ça dépend des traductions. Que sait-on de Barnabas par ailleurs ? C'est lui qui va un peu plus tard accueillir Saul, qui ne s'appelle pas encore Paul, après sa rencontre avec Jésus-Christ. Il faut se souvenir que, avant de devenir apôtre, Paul était persécuteur de l'Église. Il a vécu une conversion spectaculaire, mais cette conversion était personnelle, il y avait quelques témoins. Il a eu un changement radical, mais extrêmement rapide aussi. Et au début, tout le monde continuait à se méfier de lui, y compris lorsqu'il prétendait avoir rencontré Jésus-Christ et avoir changé de vie. Celui qui a accueilli Paul, alors que personne ne voulait le faire, c'est Barnabas, le fils d'encouragement. C'est lui qui va jouer un rôle d'intermédiaire et permettre à Paul de commencer son ministère. Barnabas sera d'ailleurs le compagnon de Paul dans son premier voyage missionnaire et il va petit à petit s'effacer pour laisser plus de place à Paul. Au début, dans le livre des Actes, on parle de Barnabas et Paul et puis on se met à parler de Paul et Barnabas. Le fils d'encouragement a su s'effacer pour laisser Paul exercer son ministère. Alors, il ne faut pas croire que c'était par faiblesse de caractère. On voit que Paul et Barnabas se sont séparés un peu plus tard à cause d'un vif désaccord. Barnabas voulait emmener avec eux Jean, surnommé Marc, mais Paul ne le voulait pas. Il lui reprochait de les avoir laissés tomber. Barnabas voulait peut-être donner une seconde chance à Marc et l'a emmené avec lui. Paul, lui, l'a refusé et il est parti de son côté avec un autre collaborateur, Sylvain, Silas. Le fameux Marc dont il est question dans ce désaccord est peut-être l'auteur de l'évangile qui porte son nom, l'évangile de Marc. Plus tard, il sera mentionné comme collaborateur de Paul dans les épîtres les plus tardives, des épîtres à Philémon, à Timothée, ce qui laisse entendre qu'il y a eu à un moment donné, après ce vif désaccord, un cheminement de la part de Paul, et que Paul a pu se réconcilier avec ce fameux Marc. Barnabas avait donc bien raison, on pourrait dire, de donner une seconde chance à Marc. C'est un rapide portrait de Barnabas. On trouve encore d'autres passages dans lesquels Barnabas est mentionné. Mais effectivement, ce qui ressort de cette personne de Barnabas, d'après les données que nous avons dans le Nouveau Testament, on a un homme qui est discret, mais qui joue un rôle quand même essentiel. Il pourrait se fondre dans la masse sans qu'on le distingue des autres, parce que ce qui lui importait, ce n'était pas lui-même, sa réputation, mais c'était la place des autres, celles et ceux qui ont besoin d'être secourus, qui ont besoin d'être accueillis, encouragés. Il était le fils d'encouragement, c'est lui qui a permis à Paul de se lancer dans le ministère public, et c'est lui aussi qui a donné cette seconde chance à Marc, qui est ensuite redevenu, disons devenu en fait, le compagnon aussi de Paul dans ses voyages. Nous avons besoin de telles personnes dans nos églises, des personnes qui encouragent. Ce rôle est souvent discret, presque invisible des fois, et pourtant essentiel. Celles et ceux qui savent encourager les autres, y compris en s'effaçant s'il le faut, sont des éléments essentiels dans l'Église. Celles et ceux qui ont été au bénéfice de leurs encouragements le savent bien. Mais une question m'est alors venue à l'esprit. Qui va encourager les Barnabas? Ils en ont autant besoin que les autres. Ce serait beau si, après la fin officielle du culte, on puisse aller trouver quelqu'un qui nous a une fois encouragés par une parole, par un geste dans l'Église, pour lui dire à quel point ça nous a fait du bien. Et du coup, l'encourager aussi, lui, à son tour. Je me souviens d'une anecdote, c'est une anecdote mais c'est une histoire vraie, mais mon papa, une fois devant une triste nouvelle, un frère de l'Église avait perdu, je pense que c'était sa maman ou son papa. Il ne savait pas trop quoi lui dire. Vous savez, dans ces moments-là, les mots paraissent vraiment, vraiment faibles. Alors des fois, on dit « bon courage, que Dieu te soutienne », etc. Et mon papa n'avait pas forcément trouvé les mots et il avait simplement tapé l'épaule de ce frère avec un petit sourire. Et alors, ça avait beaucoup encouragé ce frère. On ne peut pas savoir pourquoi tel mot ou tel geste tout d'un coup va nous marquer. Mais des années après, il a pu dire à mon père, « Ah, tu sais, ce jour-là, quand tu as posé ta main sur mon épaule, ça m'a béni, ça m'a encouragé. » Faisons-le. Autour de nous, et n'oublions pas d'encourager aussi ceux qui nous ont encouragés en leur disant. Tout au long des épîtres de Paul, il y a de nombreuses exhortations avec la formule « les uns les autres ». Des exhortations qui soulignent la responsabilité communautaire que nous avons les uns envers les autres. Et une de ces exhortations concerne justement l'encouragement. Dans la Nouvelle Bible Second, 1 Thessaloniciens 5, verset 11. « Ainsi donc, encouragez-vous mutuellement et contribuez à la construction de l'autre comme vous le faites déjà. » C'est une courte exhortation au milieu d'une série d'autres exhortations adressées à toute l'Église, pas seulement à quelques personnes qui seraient des spécialistes ou qui auraient un ministère spécifique dans l'encouragement. Chacun doit se sentir concerné. On a cette expression « les uns les autres ». L'appel à l'encouragement mutuel est associé aussi dans ce verset à un autre appel, celui de la construction de l'autre. Dans les versions plus anciennes, on parlait d'édification, mais le terme est très concret et évoque bien le fait de construire. Encourager quelqu'un, c'est l'aider à se construire. Et on peut l'observer dans notre propre vie. Il y a des paroles qui nous ont construites et il y a des paroles qui nous ont abîmées, détruites. À la fin de ce verset, Paul précise qu'il sait que l'Église de Thessalonique est déjà attentive à cela, mais il le redit. Et c'est sans doute parce qu'il y a une attention particulière à porter sur la question et qu'il faut toujours y travailler. Il dit « comme vous le faites déjà ». Alors pourquoi il le dit? Parce qu'en fait, il faut continuer. Ce n'est pas parce qu'on le fait déjà qu'il faut s'arrêter. Développer, essayer de développer une culture de l'encouragement. L'encouragement, c'est quelque chose qui se travaille. Il est important de mettre en place les conditions pour qu'on puisse vivre l'encouragement, mais aussi persévérer dans l'encouragement, laisser s'épanouir la culture de l'encouragement parmi nous. On doit cultiver, voilà, l'encouragement comme on cultive un jardin, en enlevant les mauvaises herbes. Mettre en avant l'encouragement, c'est se débarrasser, cultiver l'encouragement, c'est se débarrasser des mauvaises herbes. Les mauvaises herbes du jugement, de la critique, pour laisser pousser, grandir, s'épanouir l'encouragement. Et c'est comme cela que l'encouragement va porter de beaux fruits dans la vie des uns et des autres. Ça ne poussera pas tout seul. Il faut cultiver, le cultiver. L'encouragement, ça n'est pas vraiment naturel. Il paraît qu'on est dans une société où on râle plutôt, on pointe plutôt ce qui ne va pas. Ce qui est plus facile, c'est la critique, c'est le jugement. Ça se fait tout seul, sans aucun effort sur soi. Ça pousse comme de la mauvaise herbe. Par contre, cultiver l'encouragement, c'est exigeant. Ça demande de choisir la bienveillance, l'écoute, l'accueil. Ça demande des efforts. Et je pense que pour y arriver, il y a trois éléments essentiels. Premièrement, être convaincu. Il faut être conscient et convaincu de l'importance de l'encouragement. Mais ça, je pense que c'est le cas. Les textes bibliques qu'on a lus devraient suffire pour cela. Notre expérience dans la vie confirme que c'est important, l'encouragement. Donc, être convaincu, premier point. Deuxième point, se discipliner. Je disais, ça demande des efforts. Être attentif, du coup, aux mauvaises herbes qui poussent naturellement dans notre esprit, qui nous poussent au jugement et à la critique. L'encouragement, c'est une discipline de vie, une discipline qui oriente notre façon d'être en relation avec notre frère et notre sœur. Et je fait une allusion à un enseignement que j'ai apporté aussi un autre dimanche, cherchons le positif chez l'autre. Vous vous souvenez peut-être de cette citation que la beauté est dans le regard de celui qui regarde. Et la mocheté aussi. Elle est aussi dans le regard de celui qui regarde. Donc être convaincu, se discipliner et se lancer. Oser encourager. Peut-être au début, on aura l'impression d'être maladroit, de mal s'y prendre. Alors ce n'est pas grave, on percevra quand même la bonne intention. Mieux vaut être maladroit dans l'encouragement qu'adroit dans la critique. Alors je ne suis pas en train de dire qu'on vit dans le monde des bisounours. Il ne s'agit pas de dire que tout ce que les autres font, c'est toujours formidable et merveilleux. Mais il s'agit d'être animé de cette volonté d'encourager, d'aider l'autre à se construire comme les autres, par leur encouragement, nous aident à nous construire. En fait, c'est un cercle qui est vertueux. Si je me discipline pour acquérir cette culture d'encouragement et que j'ose encourager, je verrai les fruits que ça produit. J'en serai d'autant plus convaincu et motivé pour continuer, etc. Ce serait donc formidable si nous pouvions être une église de Barnabas, s'encourager les uns les autres et encourager encore au-delà du cercle de l'église locale. Des Barnabas tous différents et singuliers, des Barnabas au masculin et au féminin. Toutes et tous animés de la même intention d'être une source d'encouragement, les uns pour les autres, et nous aider mutuellement à nous construire. Si le Seigneur nous y invite à travers sa parole, c'est aussi parce que c'est lui qui rend fructueux les encouragements qu'on peut partager, échanger entre nous. Et il nous permet de nous construire avec lui. C'est-à-dire que son œuvre, l'œuvre de Dieu et même l'œuvre de l'Esprit dans notre cœur, passe aussi par la vie de l'Église. Si le Saint-Esprit a fait sa demeure en nous, il nous appelle à être, à la suite de Barnabas, des fils et des filles d'encouragement. Alors, soyons-en convaincus, disciplinons-nous et lançons-nous. Dès tout à l'heure, en quelques minutes. Amen. On va pouvoir prendre du coup un cantique maintenant. Je vais juste encore prier avant le cantique. Notre Dieu, oui, c'est tellement beau d'être encouragé que nous voulons aussi, à notre tour, oser et nous lancer pour encourager notre frère ou notre sœur. Seigneur, tu sais qui en a besoin et tu accomplis aussi ton œuvre par l'amour que tu déposes dans notre cœur et que nous exprimons aux uns et aux autres, par des paroles de bienveillance, d'encouragement, par une écoute, un geste de compassion. Seigneur, permets-nous de vivre et de progresser dans une culture de l'encouragement, que nos paroles soient, oui, assaisonnées de sel, ce sel qui fait vivre, cette lumière qui brille. Seigneur, oui, que par ton esprit, tu fasses ton œuvre en nous et que tu nous utilises pour bénir ton peuple et largement encore au-delà. Amen.